Radio Kapi. Le journal, à la présentation, Patience Ngalula Mbombo.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce mardi à Kalemi, dans la province du Tanganyika. En mission d'itinérance, le chef de l'État va présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces sur place, ainsi que la 23e réunion du Conseil des ministres, a affirmé les directeurs de la presse présidentielle. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est invité à comparaître comme témoin par la Cour de cassation au procès des forages d'eau prévu le 2 décembre prochain. Il sera confronté aux prévenus François Rubota et Mike Kasenga, poursuivis pour détournement présumé de 47 millions de dollars dans ces dossiers. Après 10 ans de silence, la Radio Campus de l'Université de Kinshasa reprend ses émissions. Invité de ce journal, son coordonnateur, le professeur Jean-Paul Mbouya, nous parle de son fonctionnement et ses missions dans la formation des étudiants en journalisme et communication. Bonjour. Le président Félix Tshisekedi effectue une mission d'itinérance dans la province du Tanganyika à partir de ce mardi. Selon les directeurs de la presse présidentielle, pendant près d'une semaine, le chef de l'État aura plusieurs activités, dont la principale reste la 11e conférence des gouverneurs des provinces qu'il va présider sur place à Kalemie, ainsi que la 23e réunion du Conseil des ministres. On écoute à ce sujet Giscard Koussema, directeur de la presse présidentielle.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait également présider la 23e réunion du Conseil des ministres sur place à Kalemie. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que les gouverneurs ont déjà fait le déplacement du chef de la province de Tanganyika. Le président de la République devrait profiter également de cette mission d'itinérance pour parler à la population de cette province. C'est ainsi qu'il est prévu un meeting aussitôt après son arrivée ce mardi. Le président de la République devrait également procéder à la visite d'inspection de différents travaux qui ont été initiés dans les cadres du programme de 145 territoires, mais aussi tous les projets qui ont été financés par le gouvernement central.
Les délégations ministérielles du Rwanda et de la RDC se réunissent depuis hier lundi à Luanda sous les auspices du gouvernement de la République d'Angola. Objectif, analyser la question de la sécurité et de la paix dans l'est de la RDC. Cette rencontre intervient après la mise en place à Goma le 5 novembre dernier du mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR du processus de Luanda. Sous la direction de l'Angola, ces mécanismes visent à assurer un suivi non seulement du cessez-le-feu conclu entre les deux États, mais aussi de leurs accusations mutuelles d'agression et d'attaque. La délégation congolaise est conduite par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner. Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, représente ces pays à ses assises. Pendant ce temps, les coordonnateurs du Congo Action pour la diplomatie agissante, CADA, demandent au gouvernement congolais de peaufiner des stratégies de coopération avec la nouvelle administration américaine que dirigera Donald Trump à partir du 20 janvier 2025. C'est au cours d'un point de presse hier lundi à Kinshasa qu'Eric Kamba, coordonnateur du CADA, s'est ainsi exprimé. Pour lui, le gouvernement congolais doit exploiter les atouts nécessaires pour offrir un nouveau cadre d'échanges économiques et commerciaux avec les États-Unis pour ramener la paix dans l'est du pays, tout en étudiant les repositionnements d'autres partenaires, notamment la Chine et la Russie. Cette politique étrangère doit être déployée en faisant en sorte que les intérêts de tous les partenaires de la RDC, y compris les siens propres, ne soient pas conflictuels, mais complémentaires et bénéfiques pour tous, ajoute-t-il. On écoute Eric Kamba au micro de Richard Junior Kamunga.
Le gouvernement de la République se doit d'exploiter cet atout qui pourrait lui offrir un nouveau cadre d'échanges économiques et commerciaux avec des États-Unis à travers la nouvelle administration Trump pour ramener la paix à l'est de la République. Il convient à tout prix d'exploiter ce possible changement de donne dans la politique américaine pour établir les liens de coopération gagnant-gagnant, mettre fin une fois pour toutes à la guerre de l'Est. Dans cet exercice, Il convient d'autre part d'étudier les repositionnements d'autres partenaires, notamment la Chine et la Russie, en vue de mettre de l'ordre dans des propriétés cette politique étrangère et de cohérence dans des actions menées sur ces difficiles échiquiers au partenariat parfois incontrôlable. Bref, cette politique étrangère doit être déployée en faisant en sorte que les intérêts de tous les partenaires de la République, y compris les siens propres, ne soient conflictuels, mais sinon complémentaires et bénéfiques pour tous.
Procès des forages d'eau, la Cour des cassations invite l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi à comparaître comme témoin à la prochaine audience fixée au 2 décembre. D'autres témoins attendus à cette audience sont Muindo Nzangi, actuel ministre du Développement Rural, Guy Mikulu, les prédécesseurs de François Rubota à ses postes qui avaient signé les contrats des forages et l'inspecteur général des Finances. Ils seront confrontés aux prévenus François Rubota et Mike Kasinga, opérateurs économiques. Ces derniers ont comparu à l'audience publique d'hier lundi dans l'affaire des forages d'eau. Le ministère public les poursuit pour détournement présumé des 47 millions de dollars sur les 72 millions décaissés par les trésors publics dans le cadre du contrat signé en 2021. Compte rendu de Jeff Ngoy.
Selon l'avocat de François Rubota, Raphaël Nyabirungu, le ministère public est dépourvu d'arguments pour convaincre sur le détournement d'argent dont est accusé son client.
Le ministère public n'a pas contribué à faire évoluer le dossier dans le sens d'établir le détournement. Toutes les quelques questions qu'on lui a posées ont démontré son embarras quant à la qualification exacte qui fonde sa démarche.
Que révèle la comparution des témoins à la prochaine audience? Le conseil de Mike Kasinga, Batonier Kalengi, explique.
Ces personnes-là sont d'une importance très capitale dans la manifestation de la vérité dans ces procès. C'est ainsi que la Cour a estimé bon de pouvoir les inviter, qu'elles viennent comparaître pour édifier la Cour, afin que la Cour rende un arrêt conformément à la loi. Mon client est poursuivi. Moi, je considère que c'est à cause de faux bruits et des rumeurs, des surfacturations ou des détournements.
Dans une procédure pénale, la recherche de la vérité est la règle. Et la Cour y tient fermement avant de passer aux plaidoiries de la défense. Dès que les témoins seront auditionnés.
Et puis, plus de 400 millions de dollars pour faciliter l'accès à l'eau potable dans quatre provinces de la RDC. La Banque mondiale qui finance ces projets appelle les entrepreneurs congolais à s'impliquer dans les activités de terrain dans la première phase de ces projets. Les conditions d'éligibilité leur ont été communiquées ce lundi au cours d'un salon PASEA, programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement. Les détails avec Emmanuel Elamenjoua Kabedi.
La première phase de ce projet concerne plus de 3 millions de personnes pour leur accès à l'eau potable et 2 millions d'habitants pour l'accès à l'assainissement. La Banque mondiale finance ce projet dans le cadre du 6e objectif de développement durable, ODD.
La première phase de ce programme bénéficie d'un financement de 400 millions de dollars pour les provinces de Kulu, Kasai, Kasai central et Kasai oriental. Ce programme s'inscrit dans le partenariat stratégique. Il vise à orienter le financement de notre institution vers les projets ayant un impact direct sur les populations congolaises.
Pour faire aboutir ces projets, les entreprises congolaises doivent s'en approprier, surtout le secteur privé. Le ministère congolais des hydrocarbures et électricité s'en réjouit.
L'objectif majeur de ce salon, c'est de pouvoir amener les micro-entreprises congolaises de pouvoir s'approprier et être intervenants dans la réalisation de ce projet. On peut avoir quelques-uns qui peuvent peut-être être des fournisseurs de gros tuyaux ou de sous-traitance.
Signalons que si le secteur de l'eau n'est pas suffisamment pris en compte en RDC, le pays risque de ne pas atteindre d'ici 2030 l'objectif de développement durable numéro 6 sur l'accès pour tous à l'eau et assainissement.
En Ituri, plus de 76 000 kg de semences des variétés confondues ont été remis hier lundi au gouvernement provincial par réseau des initiatives mobilisées pour l'autopromotion RIMA. C'est dans le but d'améliorer les rendements agricoles dans cette province affectée par l'activisme des groupes armés. Selon les coordonnateurs de cette structure, c'est aussi pour pousser de nombreux jeunes à s'élancer dans l'agriculture pour contribuer au développement de leurs entités. Les gouvernements provinciaux saluent cette dotation qui prouve la volonté des autorités à mettre fin aux conflits armés à travers l'encadrement de jeunes. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Il s'agit entre autres des semences de maïs, haricots, de riz, ainsi que des boutures de manioc qui seront acheminées dans les 5 territoires de l'Ituri. C'est pour permettre aux populations, dont les retournés, d'exercer des activités agricoles pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Le gouvernement provincial salue cette dotation qui va permettre aux nombreux jeunes qui traînent encore dans les groupes armés de quitter la brousse pour s'intéresser à l'agriculture. Dieudonné Omasombo, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge des questions économiques et finances.
L'emploi, ce n'est pas seulement les travaux dans le bureau. L'agriculture n'est pas destinée aux vieux ou aux vieilles mamans, non, c'est aussi à la jeunesse. Vous voyez par exemple le cas avec Kanyamaka, ce sont des jeunes qui sont en train de travailler. Si aujourd'hui, mais aussi chez nous, ici, en Ituri, je vois que c'est une bonne chose que les jeunes s'investissent pour travailler à l'agriculture.
Pour le responsable des RIMA, cette démarche vise à redorer l'image de l'Ituri, connue par les passés comme l'un des greniers agricoles en RDC, Baudouin Pironga.
Dans les temps, c'est l'Ituri qui nourrissait toute la République. Donc les produits venaient de partout, donc différents territoires. Alors, avec la guerre qui a sévi, donc les troubles sociaux, donc il y a eu la désarticulation dans ces secteurs-là.
Le gouvernement provincial salue ce geste, preuve de la volonté des autorités à mettre fin aux conflits armés à travers l'encadrement des jeunes. Bounia Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, a affirmé les dimanches avoir lancé les plans opérationnels pour baisser les taux de la criminalité urbaine dans la capitale. Il a dit lors du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias au studio de la RTNC 3 à Kinshasa. Le patron de la territoriale a également annoncé la mise en œuvre des comités locaux de sécurité en vue de dissuader les bandits, communément appelés Kuluna. Les propos de Jacquemain Chabani sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Au niveau du ministère, nous sommes en train de faire en sorte que notre police ait les moyens de sa politique pour mettre fin au phénomène Kuluna. La police ne travaille pas seule. C'est pourquoi nous avons signé les partenariats avec la justice en termes des initiatives des audiences foraines. Nous faisons des séries de réunions pour que le processus de la réforme de la police aille de l'avant pour mieux sécuriser nos populations. Notre objectif est d'éradiquer le phénomène Kuluna. Bientôt là, nous allons lancer la campagne de mise en place des comités locaux de sécurité au niveau des communes, des quartiers et des rues. Nous allons mettre en place ces dispositifs à travers toutes les provinces parce que le phénomène de banditisme urbain est alimenté par les mêmes gens des quartiers qui insécurisent leurs concitoyens.
La réaction du vice-premier ministre de l'Intérieur intervient au lendemain du décès d'une journaliste de la RTNC des suites d'une attaque des Kuluna, non loin du camp Kokolo. Et de son côté, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a encouragé la population à s'impliquer dans la sécurisation de la ville en dénonçant ces bandits qui se cachent dans la population. Dans la province de l'Équateur, la police poursuit la traque des vendeurs de stupéfiants en Mbandaka dans certains quartiers de la ville. Des débits de liqueurs fortes qui rendraient les bandits plus agressifs sont ainsi démantelés. Plusieurs vendeurs et consommateurs surpris dans ces lieux ont été arrêtés et gardés au commissariat urbain de la police. Cette opération a débuté la semaine dernière. Unis pour protéger les femmes et les filles, c'est les thèmes choisis pour la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Au Sud Kivu, le lancement a eu lieu hier lundi 25 novembre à l'auditorium de la femme à la botte dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. L'objectif est de sensibiliser les publics sur les violences que subissent les femmes et les filles afin que cela cesse. Rachel Kiesembangu était de la partie, elle nous présente ses reportages.
Ces activités de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes sont mises en œuvre par le ministère en charge du genre. Le ministre provincial de la Justice et Droits Humains, Faustin Mayani Shindano, représentant du gouverneur, a lancé cette campagne au Sud Kivu.
Il y a deux dates commémoratives. La première date, c'est celle d'aujourd'hui. Cette date nous appelle tous à nous unir pour dire non à la violence faite à la femme et à la fille. Alors, la date du 10 décembre, également, c'est une date commémorative, c'est la date de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce que nous devons faire, nous qui tenons la politique de la province en ce qui concerne les genres, nous devons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons prévenir la récidive. Que ce que nous avons vécu dans l'État ne revienne pas encore. La deuxième action, c'est celle d'identifier les acteurs de violence. Que ces acteurs répondent de leurs actes devant les organes de la loi. Et en troisième lieu, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner les survivants des violences sexuelles pour qu'ils se sentent également intégrés au sein de la société.
Signalons qu'une série d'activités vont couvrir ces 16 jours allant du 25 novembre au 10 décembre. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni, au Nord Kivu, des dizaines de cas de violences sexuelles et basées sur les genres sont signalés dans différents sites des récoltes des sauterelles depuis leur apparition. Cette alerte est de l'organisation Femmes Congolaises pour le développement Féconde. Selon sa coordinatrice, de jeunes filles, y compris des mineurs, ont été victimes des viols dans ces sites non sécurisés par les services de l'ordre. Julien Kouna appelle les parents à assumer leur rôle de surveillance et exhorte les forces de l'ordre à renforcer la sécurité dans ces lieux.
Actualité internationale.
En Afrique, le nombre de déplacés internes a triplé en 15 ans, atteignant 35 millions. C'est trois fois plus qu'il y a 15 ans, selon l'Observatoire des situations de déplacement interne, IDMC. Les raisons sont connues, la guerre d'une part, les catastrophes naturelles de l'autre. Les problèmes, c'est que les deux s'entremêlent parfois.
L'invité.
Après 10 ans de silence, la radio campus de l'Université de Kinshasa a repris ses émissions. Elle a pour mission d'informer, mais aussi d'être un outil didactique pour permettre aux étudiants en journalisme, multimédia et communication des organisations de l'UNIKIN d'apprendre les métiers. Son coordonnateur, le professeur Jean-Paul Mbouya, nous parle de son fonctionnement et ses missions dans cet entretien avec John Chibwabwa.
Professeur Jean-Paul Mbouya, bonjour.
Bonjour.
Après une décennie, la Radio Campus reprend à émettre. Qu'est-ce qui motive cette réouverture?
La Radio Campus, comme vous le savez, c'est un outil didactique pour permettre aux étudiants de sciences de l'information et de la communication de faire de la pratique. C'est donc une école d'application à l'image des cliniques universitaires de Kinshasa qui sont une école d'application pour les étudiants de la faculté de médecine et aussi du groupe scolaire du Moamba, qui est aussi une école d'application pour les étudiants de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Donc, après 10 ans de fermeture, il était temps que cette radio se réveille, et la radio a repris son fonctionnement grâce au leadership du comité de gestion de l'UNIKIN, conduit par le recteur, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe Toumba.
Quelle est la vision, la mission, l'objectif et la philosophie de la Radio Campus aujourd'hui?
Oui, la Radio Campus fonctionne d'abord comme une radio normale, c'est-à-dire elle diffuse les informations d'actualité, elle diffuse aussi des émissions, des magazines socioculturels à caractère éducatif. Alors, les informations, c'est de manière générale, donc on diffuse tout, mais on met un accent particulier sur des sujets qui concernent l'éducation, la science, la culture, l'entrepreneuriat, l'innovation, la recherche scientifique, tout ce qui est lié à l'enseignement, donc les conférences, les séminaires, et nous diffusons aussi l'actualité normale comme toutes les autres radios. Donc nous parlons de tout, mais nous restons focalisés sur l'éducation nationale.
Oui, comment se présente la grille des programmes de la Radio Campus aujourd'hui en termes d'émissions et tant d'autres rubriques qu'on peut retrouver à la Radio Campus?
Justement, la grille de programmes est en train d'être restructurée parce que je vous ai dit tantôt que c'était une radio didactique pour les étudiants. Donc, ça veut dire que déjà, nous allons commencer des programmes qui seront animés aussi par des étudiants. N'est-ce pas, des étudiants vraiment qui sont à l'université, mais il y aura aussi des professionnels, dont des gens qui ont fini leur formation et qui vont travailler à la Radio Campus de manière autonome. La grille de programme est en pleine restructuration. Il y a une émission qui a commencé. L'émission s'intitule Écho des facultés. Donc nous parlons déjà de toutes les activités au sein de nos facultés, au sein de nos départements, au sein de nos centres de recherche, au sein de nos écoles et des instituts de recherche.
La Radio Campus est d'abord un outil didactique pour les étudiants en cycle. Comment les séances pratiques sont organisées à la Radio Campus?
Les étudiants qui font la communication sont initiés principalement d'abord au journalisme, c'est-à-dire que les étudiants apprennent à faire des reportages, ils apprennent à faire des interviews, ils apprennent à présenter le journal. C'est ça la communication. Et dans une certaine mesure aussi, il y a des formations sur la publicité, parce que vous savez, en communication, il n'y a pas que le journalisme, il y a aussi la publicité. Et il y a aussi des formations sur le multimédia, donc tout ce qu'il y a comme application, tout ce qu'il y a comme programme de montage, de traitement de son, de traitement d'images, vidéos, les affiches et consorts, la conception. Donc ça, c'est aussi une spécialité en termes de communication. Et ces étudiants ont l'opportunité, justement, de pratiquer tout ce qu'ils ont appris sur le banc de l'université. Donc aujourd'hui, ceux qui font la réalisation, la technique par exemple, à la régie, nous avons nos étudiants de multimédia qui ont appris les programmes de gestion, des applications de gestion de son, de gestion d'image, des programmes de diffusion, des journaux, des magazines, ainsi de suite, des programmes de montage. Donc c'est eux qui sont là. Toutes les filières des sciences de l'information et de la communication se retrouvent.
Professeur Jean-Paul Mouya, la Radio Campus dont on parle émet sur quelle fréquence?
La Radio Campus émet sur la fréquence 107.6 MHz.
Quelles sont les sources des financements et les difficultés que vous rencontrez ici à la Radio Campus?
La principale source de financement, c'est l'Université de Kinshasa, avec ses aléas, parce que vous savez, l'Université de Kinshasa est aujourd'hui aussi en train de se restructurer. Il y a beaucoup de réformes qui sont entreprises. On est en train d'améliorer les choses et ces améliorations-là vont aussi bénéficier à la Radio Campus.
Merci beaucoup, monsieur le professeur Jean-Paul Mouya.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que s'achève cette édition d'information. Billy Landry Betou a assuré sa mise en onde. Pelé Kipela Mondo l'a préparé pour vous. À la présentation, patience, Ngalou Lambombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.